Vous écoutez
RMC.
Sécurité.
Mardi 30 juin,
l'info sur RMC.
8h03, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Les nouvelles zones commerciales autour des villes, et si c'était bientôt l'histoire ancienne, feu vert pour un moratoire sur ces projets qui tuent à petit feu nos centres-villes. Fessenheim, c'est fini, la centrale ne fonctionne plus depuis hier soir, son démantèlement devrait durer près de 20 ans. Le message alarmant de l'OMS ce matin, la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie et s'accélère, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue sur RMC. Ce sont des zones commerciales qui grignotent les centres de nos villes, des centres qui aspirent à proposer finalement la même offre de l'alimentaire, des vêtements. Plus besoin de s'engouffrer dans les villes où la circulation est difficile et où il est souvent compliqué de se garer. Des zones commerciales, oui, mais jusqu'à quand ? Emmanuel Macron a donné son feu vert pour un moratoire sur le sujet à l'échelle nationale. Il l'a annoncé hier devant les 150 citoyens de la Convention Climat à Herblay-sur-Seine, dans le Val-d'Oise. Les zones ont fleuri partout. Les habitants ont vu les rideaux des magasins se fermer les uns après les autres. Romain Poiseau, Garance Munoz.
En 20 ans de vie à Herblay, Manuel a vu le centre-ville changer de visage.
Une petite boutique de bonbons, ça n'a pas duré. Le petit quincailler qui était bien pratique aussi, qui a disparu.
Depuis, des zones commerciales ont encerclé la ville. Une nouvelle va bientôt voir le jour, inutile selon lui.
Je crois qu'il y a déjà tout. En rajouter, ça va faire fermer encore tous les petits commerces des centres-villes.
Derrière son four à pizza, depuis les années 90, Francesco a vu beaucoup de fermetures de boutiques à Herblay.
Évidemment, nous les commerçants, des fois, ça nous fait peur. Se battre avec des grandes surfaces. Nous, on est là tous les jours, du lundi au samedi, toujours prêts à être disponibles à la clientèle. Les grandes surfaces sont un peu responsables de certains faillites.
Le moratoire d'Emmanuel Macron sur ces nouvelles zones pourrait concerner celle d'Herblay. Le maire Philippe Roulot est prêt à discuter, mais il croit en ce projet.
Je ne veux pas que ça soit du dogmatisme, que ça arrête tous les projets en cours. C'est pas bien pour l'économie, ça serait envoyer un mauvais signal au moment où des enseignes sont en difficulté de bloquer tous ces projets. Ça crée de l'emploi, encore une fois.
Reste à savoir si le moratoire concernera seulement les futurs projets ou ceux qui ont déjà été approuvés.
Hier, Emmanuel Macron a écarté d'emblée trois propositions de la Convention citoyenne, dont la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute et la taxation à 4% des dividendes pour financer la transition écologique. Sur RMC, ce matin, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a demandé au gouvernement de mener une politique pour relocaliser la production agricole, produire français et bio, d'accord, mais il faut accepter d'en payer le prix.
9 Français sur 10 veulent acheter français. C'est bien. Pour acheter français, il faut accepter aussi que ce soit un petit peu plus cher. Nous avons en France les impôts de production parmi les plus élevés. Et c'est pour ça que nous sommes contraints d'avoir des prix plus élevés, parce que nous sommes beaucoup taxés. Règle premium, taxe plus élevée, on ne peut pas produire au tarif de l'Inde, évidemment, de l'Asie ou de même des pays d'Afrique du Nord. C'est un tout cohérent. Donc lorsqu'on parle de relocalisation de la production, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse de voitures, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, il faut aussi qu'il y ait une citoyenneté de l'achat. Et ça, je pense que c'est très important.
Les agriculteurs qui devraient bientôt voir leur retraite augmenter. Le Sénat a adopté hier soir une proposition de loi permettant une revalorisation de 75 à 85% du SMIC. La mesure n'entrera pas en vigueur avant 2022. 23h30, hier soir, la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim a, comme prévu, définitivement cessé de fonctionner. Une victoire pour les anti-nucléaires, mais un crève-cœur pour certains habitants et pour les salariés du site. Le maire, Claude Brinder, estime que cet arrêt n'a pas été anticipé suffisamment par le gouvernement. Les conséquences économiques s'annoncent dramatiques.
Le problème numéro un, c'est qu'on perd 1000 emplois sur le bassin d'emploi de Fessenheim. Et donc, ces 1000 emplois, aujourd'hui, ne sont remplacés par rien. Et c'est ça qu'on déplore. Et c'est ça, là, où on a été abandonné, totalement. Le gouvernement n'a pas mis les moyens qu'il faut pour que cette fermeture se passe bien. C'est pas satisfaisant. Notre population, elle mérite pas ça non plus. On a accepté une centrale nucléaire sur ce territoire pour participer aussi à l'indépendance énergétique de la France. Et donc, aujourd'hui, il y a un minimum de respect et de considération à avoir pour ce territoire.
Alors justement, que va devenir maintenant le site de Fessenheim ? L'évacuation du combustible hautement radioactif s'achèvera en 2023. Le démantèlement, lui, débutera 2 ans plus tard, en 2025. Une opération qui va durer de longues années. Aurélia Manoli.
C'est la phase du démantèlement qui va maintenant commencer avec une soixantaine de salariés. Et cela va durer près de 20 ans, le temps nécessaire pour déconstruire les deux réacteurs, décontaminer et réhabiliter le site. Mais pour la suite, aucun projet n'est officiellement arrêté. EDF envisage l'installation d'un technocentre, un site pilote pour décontaminer les métaux issus du démantèlement d'autres installations nucléaires. Mais le projet est incertain. Évoqué aussi l'installation d'une usine de biocombustible qui pourrait employer jusqu'à 700 salariés dans une zone d'activité baptisée Ecorena, zone d'activité qui pourrait accueillir des entreprises dès 2022. Mais là encore, rien n'est arrêté. Les élus locaux regrettent une décision politique de l'État sans avoir prévu d'outils de remplacement.
La vague verte lors du second tour des municipales dimanche, la défaite amère de la majorité et la victoire facile d'Édouard Philippe, largement élu à la tête du Havre avec près de 59% des voix. Rien n'a filtré de la rencontre entre le président et son premier ministre hier, mais le chef de l'État ne s'en cache pas. Il remaniera son équipe cet été pour tenter de relancer son quinquennat. Toute la question est donc de savoir s'il remplacera son chef, le chef du gouvernement. Les prochains jours seront déterminants, Jérémy Trottin.
Il est politiquement très fort, confie un ministre. Depuis la victoire d'Édouard Philippe au Havre, rares sont les membres du gouvernement à encore le critiquer ouvertement. Sans réserve de voix, il arrive à gagner 15 points entre les deux tours. Il sera très difficile pour Macron de s'en passer, prédit un secrétaire d'État. D'autant que sa cote de popularité est en hausse et même chez les sympathisants socialistes, précise un ministre venu de la gauche. Cela suffira-t-il à faire d'Édouard Philippe le premier ministre de la deuxième partie du mandat? Son entourage y croit. À aucun moment, le président n'a parlé de rupture. La question est plutôt de savoir si Édouard Philippe veut et peut porter le virage écologique souhaité par le chef de l'État pour relancer son quinquennat. Certaines voix dans la majorité en doutent. En réalité, le Premier ministre ne croit pas en l'écologie. Si Macron est cohérent, il ne pourra pas le garder.
Il y a les mairies qui ont donc basculé dans le vert. J'en cite quelques-unes, Lyon, Besançon, Strasbourg, Bordeaux. Et puis, il y a les mairies sans maire, pas de candidat, pas de scrutin et donc pas de vainqueur. 4 communes sont concernées en France. 3 sont situées dans le département de l'Ain. Sans maire, eh bien c'est l'État qui gère. Pierrick Bonneau.
Plus vraiment maire, mais pas encore remplacé, Christian Armand, à la tête de la commune de Peron depuis 25 ans, ne sait plus trop où il habite.
Je peux signer les mandats, je peux signer les dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement, et je peux signer tout ce qui a à faire à l'état civil. Mais je ne suis plus maire. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué?
Pour éviter que la commune ne se retrouve sans maire, Christian Armand a finalement décidé ces derniers jours de se représenter pour un cinquième mandat.
25 ans, ça me semblait suffisant. J'avais pas prévu les 6 prochaines années comme ça. Je le fais pour que Peron reste Peron.
Car le risque, c'est de voir la commune disparaître. Philippe Beuzelin est secrétaire général de la préfecture de l'Ain.
Si une prochaine procédure devait échouer, la plupart du temps, la solution ultime, c'est ensuite d'essayer de constater en fait la disparition de la commune et d'essayer de procéder à une fusion de cette commune avec une ou plusieurs communes voisines.
En attendant un nouveau scrutin, pas avant la rentrée, c'est une délégation spéciale de la préfecture qui va gérer les affaires courantes.
Agnès Buzyn attaque une nouvelle épreuve aujourd'hui aussi. Éliminée de la bataille pour la mairie de Paris, l'ancienne ministre de la Santé va être entendue par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. Le message inquiétant de l'Organisation mondiale de la Santé, la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie et s'accélère. Le cap des 500 000 morts dans le monde a été franchi. Le gouvernement britannique annonce le durcissement du confinement à Leicester en raison d'une flambée de nouveaux cas. Écoutez les précisions du Premier ministre britannique Boris Johnson.
We are concerned.
La situation à Leicester nous préoccupe et nous sommes préoccupés par toute flambée locale. Il faut le dire aux gens, c'est très important, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Vous savez, nous prenons des mesures prudentes et calibrées pour déconfiner autant que possible le 4 juillet, pour permettre à l'économie de reprendre autant que possible. Mais pour y parvenir, nous devons parfois recourir à des confinements locaux et à des stratégies locales là où cela est nécessaire.
Local lockdowns and local whack-a-mole strategies where that's necessary.
Et puis une nouvelle journée de manifestation des personnels hospitaliers, hein, l'appel des syndicats, des collectifs soignants. Puis je rappelle aussi qu'il y a une enveloppe de 300 millions d'euros qui a été proposée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour les médecins, et les syndicats ne sont pas contents du tout.
Dites-moi, qui est ministre de l'économie et des finances?
Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, non? Qui est mon invité tout à l'heure?
Ah, Bruno Le Maire.
Est-ce que vous pensez que je vais lui parler des personnels soignants?
Je pense que ce serait pas mal.
Oui, je pense que ce serait pas mal. Évidemment, je vais lui en parler.